l'occasion de sur le sujet.
Voilà, donc pour terminer cette journée de conférence, je vous propose d'écouter Daniel Pou, qui est un doctorant de l'UCL et qui nous parle en téléconférence depuis le Québec. Et il travaille sur la notion d'imagination dans l'expérience spirituelle, surtout si en vie urbain, donc si j'ai bien compris. Et donc il va nous parler d'Henri Corbin dans une conférence qui s'intitule Henri Corbin ou l'imaginaire de l'imaginaire. Voilà, je vous en prie.
Je vous remercie de me recevoir par téléconférence chez vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter quelqu'un à distance, il y a souvent des problèmes techniques, souhaitons qu'il n'y en ait pas. J'ai pu d'ailleurs écouter l'exposé de M. Dupuis sans problème, donc j'imagine que vous allez pouvoir m'écouter aussi sans problème jusqu'à la fin. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée. J'ai d'ailleurs demandé aux organisateurs d'enregistrer les conférences pour que je puisse écouter les autres conférences auxquelles je ne pourrai assister, celle de ce matin et celle de demain, bien évidemment. D'abord, je ne sais pas si le petit résumé que j'avais envoyé a circulé. Si ce résumé circulait, vous dire que la troisième section cherchait à parler des utilisateurs du terme imaginal a sauté. Donc, elle existe. Si vous voulez en parler, on pourra en parler. Mais malheureusement, dans la présentation que j'ai préparée, on n'aura pas tout à fait assez de temps pour se rendre jusque-là. Juste dire, d'ailleurs, en écoutant l'exposé de M. Dupuis sur Blumenberg et Vico, qu'à chaque fois que j'entends parler de Blumenberg, je me dis qu'il y a vraiment un travail à faire entre Corbin et Blumenberg, surtout parce que, et voici un lien apparent et assez facile et intéressant, c'est que la thèse de Corbin, et je vais en parler un petit peu dans ma présentation, la thèse de Corbin, thèse qu'il n'a malheureusement jamais complétée, devait porter sur la notion d'anthropologie philosophique dans la philosophie allemande contemporaine. Et il y a beaucoup de liens sur la manière dont Blumenberg comprend, par exemple, la notion de métaphore à travers l'inconceptualité ou des choses comme ça, ou la théologie négative. C'est exactement là que Corbin va aller chercher ou puiser ces matières nécessaires par rapport à la conception ou la construction de concepts comme imaginal ou mundus imaginalis. Aussi, excusez les prononciations latines et allemandes qui vont avoir dans mon texte, je m'excuse d'emblée pour ceux qui parlent parfaitement ces langues. Donc, d'abord, la notion d'imagination dans l'œuvre de Corbin, c'est vraiment un des centres les plus importants de sa pensée. Hein, de l'imagination vera à l'imaginable, du mundus imaginalis archetypus au huitième climat, en passant par les récits visionnaires et les expériences spirituelles, l'imagination est pour lui l'organe qui relie tous ces phénomènes. Par son exploration de la philosophie islamique et plus particulièrement iranienne, Corbin développe une philosophie et une approche de l'imagination qui lui est vraiment propre. Corbin développe donc cette philosophie, et même si les philologues et orientalistes ont souvent critiqué, et même avec justesse, certaines de ses interprétations, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt à la conception corbinienne de l'imagination. Cette présentation ne vise pas la conception de l'imagination, tâche par exemple de la philosophie islamique, mais bien la conception de l'imagination chez Corbin. Puis comment celle-ci a été intégrée puis restituée par le philosophe orientaliste. Donc, nous laissons, il faut quand même être un peu humble, le travail aux vrais orientalistes de montrer comment Corbin transforme ou transfigure la pensée traditionnelle dans laquelle il puise. Donc, ma présentation va se faire en deux temps, puisque comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait sauter un peu le troisième. Donc, d'abord, je vais explorer les racines de l'imagination dans l'œuvre de Corbin. Et pour comprendre ce qu'elle signifie, il faut bien d'abord comprendre d'où elle vient et par qui elle a été influencée. Donc, il sera démontré qu'une analyse de l'imagination chez Corbin ne peut faire fi de l'influence d'Alexandre Coiré et de Carl Gustav Jung. Il sera ensuite question de la structure et du rôle de l'imagination dans la métaphysique corbinienne. La cosmologie, c'est-à-dire la conception du monde et des mondes chez Corbin, nous mènera dans sa phénoménologie herméneutique. Donc, d'abord, les influences et l'origine de la notion d'imagination chez Corbin. Donc, il est assez difficile de déterminer le moment précis où Corbin s'intéresse pour la première fois à la notion d'imagination. La place, la trace la plus ancienne que j'ai trouvée laisse à penser qu'il est initié à la problématique de l'imagination en philosophie lorsqu'il suivait les cours d'Alexandre Coiré en 1925 à l'École pratique des hautes études. Donc, immédiatement après avoir terminé sa thèse, la thèse de Coiré sur l'idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes, celui-ci présente de 1922 à 1927 un cycle de conférences temporaires à l'EPHE sur le mysticisme spéculatif en Allemagne. En 1922, dans sa première conférence, il traite déjà de l'influence de Böhm et de Baader. Donc, on voit déjà que de 1922 à 1929, à la publication de sa grosse monographie sur Böhm, qui est encore tout à fait actuelle, donc la racine de ça est autour de 1922. En 1924, il poursuit ses recherches en proposant un cours sur les doctrines religieuses de Schleiermacher et de Schelling. Il cherche à démontrer l'influence du mysticisme médiéval et de la Renaissance sur les doctrines de l'idéalisme allemand. On est au cœur de l'hypothèse originale de Coiré, centre de gravité vraiment de toute sa pensée. À savoir que, et je cite ici le résumé du cours de 1924, donc à savoir que les différentes positions philosophiques des systèmes post-anciens sont déterminées avant tout par des positions religieuses. Leurs thèses philosophiques traduisent des positions, des inspirations théologiques. Et c'est pourquoi ils sont tous dans une opposition irréductible au kantisme et tous animés du désir de reconquérir pour l'homme cette place centrale dans l'univers que lui assigne la théologie mystique. Donc cet extrait tiré du résumé du cours de Coiré de 1924 réconcilie parfaitement son travail sur la théosophie allemande d'un côté avec ses travaux d'histoire des sciences de l'autre. Donc nulle confusion ou contradiction entre science et religion ou entre religion et entre philosophie et spiritualité. Alors, dans cette perspective, l'hypothèse centrale des travaux de Coiré, à savoir que la révolution scientifique est précédée par une révolution religieuse, exige bien évidemment une connaissance rigoureuse des théologies mystiques, ce qu'il acquiert tout particulièrement dans ce premier cycle de conférences donné à l'EPHE entre 22 et 27, comme je l'ai déjà dit. Donc, le cours suivi par Corbin en 1925 se veut l'application directe de cette hypothèse par la recherche des influences théologiques et mystiques suivies par Fichte et reliées en creux par la polémique avec Schelling, qui a lui-même subi l'influence d'Oettinger. Alors, en passant par Böhm, Paracels, Sébastien Franck, Weigel, donc tous les mystiques, alchimistes et théosophes de l'époque, le cours suivi par Corbin s'est particulièrement intéressé, dans une perspective de théologie négative, à l'idée du corps et de l'imagination. Donc, Coiré l'indique parfaitement dans son résumé, cette fois-ci le résumé de son cours de 1925. Nous avons pu établir chez Fichte la persistance de la croyance. Nous avons pu établir chez Fichte la persistance de la croyance au corps subtil, corps éthérique ou spirituel. L'idée de l'imagination productive a donné lieu à un contresens historique très curieux. Or, nous avons pu établir que Novalis avait identifié la conception de Fichte avec celle de Paracels et avait cru retrouver chez Fichte la doctrine du rôle créateur et magique de l'imagination force plastique. Donc, cette petite présentation-là des cours de Coiré sur le mysticisme spéculatif en Allemagne témoigne de l'importance des enseignements sur le destin philosophique de Corbin. Car les notions de corps spirituel ou subtil, d'imagination, de théologie négative, de théosophie, c'est vraiment les thèmes centraux que Corbin va explorer dans sa pensée. Sauf que les recherches de Corbin vont s'ancrer dans la philosophie islamique plutôt que dans la philosophie allemande. Donc la présence des mystiques spirituels et alchimistes allemands prend aussi alors une toute nouvelle dimension. Cela indique que la source première pour la compréhension de ces mystiques-là, que Corbin aime beaucoup citer, toujours en contrepoint ou en point de comparaison avec les théosophes et mystiques iranien et la philosophie islamique. Donc, ce contrepoint-là, puis la source de sa compréhension, c'est Alexandre Coiré. En effet, l'amitié et la proximité intellectuelle de Coiré durant les années de formation de Corbin à l'EPHE doit être vraiment analysée très sérieusement. Car non seulement il me semble être à l'origine de l'idée forte de l'œuvre d'Henri Corbin, l'imagination créatrice, mais ces enseignements expliquent aussi pourquoi Corbin fait régulièrement des rapprochements entre les spirituels mystiques et théosophes allemands avec les mystiques et théosophes spirituels arabes et iraniens. D'ailleurs, Corbin cite toujours, ou même presque toujours, Böhm, Wilhelm Gautenius à travers les travaux de Coiré. Donc, au fil des années, cela génère aussi quelques polémiques, car Corbin semble plus influencé par l'image intérieure qu'il s'est construit au fil des ans que par les textes eux-mêmes. Donc, Gautenius, qu'il aime citer pour sa notion de Geistlichkeit, de corporalité spirituelle ou simplement de corps spirituel, est vraiment l'un de ces exemples-là, un exemple très, très éloquent. En 1975, lors de la deuxième session de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, dont Corbin est en fait le principal animateur et organisateur, il lui invite son ami Ernst Benz, qu'il a rencontré au Cercle Eranos et qu'il connaît depuis au moins les années 50, à faire une conférence autour du thème « Jérusalem, la cité spirituelle ». Donc, lors de cette communication-là, de 1975, Benz présente spécialement les critiques d'Hôtelier adressées à Wittenborg, un visionnaire que Corbin affectionnait tout particulièrement. Puis, Benz fait ça dans une manière ou dans un souci vraiment d'objectivité historique. Il présente les textes très sérieusement et très précisément. Or, dans le volume des actes de colloque, Corbin fera suivre le texte de Benz d'une note anonyme de 2 pages, et qui est bien sûr rédigée par lui-même, et de toute façon, c'est tout à fait dans son style d'écriture. Et cette note visait à dissiper, je cite, « un grave malentendu ». Antoine Fèbre, un collègue de Corbin, résume parfaitement dans un article particulièrement critique de son ancien maître la situation. Antoine Fèbre dit « En fait, dans cette note, on y voit Corbin faire dire à Gautenius ce que lui, Corbin, aurait aimé qu'Gautenius eût dit. On y voit se faire le médiateur entre les deux théosophes, mais en tirant Gautenius du côté de Wittenborg et en exposant davantage sa propre pensée philosophique que celle des deux parties en présence. » Fin de citation. Tout ça pour dire que le résurrecteur de Sauvamarty en Occident ne dissipe pas le grave malentendu qu'il souligne en citant les textes Gautenius par une sorte de correctif historique ou textuel. En fait, il projette sa propre philosophie du monde imaginal et fait appel à une rencontre projetée entre les deux théosophes, une rencontre qui n'a pourtant jamais pu se réaliser, pour dissiper le malentendu. Car pour lui, la corporalité spirituelle dont il est question chez Gautenius se rapporte précisément à une corporalité imaginale qu'il avait lui-même observée ou trouvée ou vue ou aperçue, faudra en faire une analyse, chez Wittenborg. Alors, contrairement à Benz, Corbin ne s'en tient pas à l'histoire des idées. À travers ses lectures, il opère une relecture qui laisse transparaître sa propre philosophie du mundus imaginalis. Enfin, on voudra peut-être m'objecter que j'étire un peu trop l'influence d'un cours de 1925 suivi par Corbin, un cours de Coiré. En fait, cette impression serait juste si on en restait à ce seul cours, puis qu'on négligeait le fait qu'en réalité, ils vont être de très proches collaborateurs de 1930 à 1939 étant l'année de départ de Corbin vers l'Orient, donc il va partir en Turquie pendant 5 ans. En effet, le fascicule de la revue de Biflure de 1931, qui contient la première traduction française d'un texte de Martin Heidegger, traduction signée par Henri Corbin. Dans ce fascicule de la revue Biflure, on trouve aussi une petite introduction qui, elle, porte la signature d'Alexandre Coiré. Un geste qui associe Coiré à jamais à l'introduction de la philosophie heideggerienne en France. De plus, de 1931 à 1937, Coiré est aussi le principal protagoniste des recherches philosophiques. Et dans les 6 forts volumes de cette vraiment incroyable épopée philosophique, annonçant presque toute la philosophie du 20e siècle, et je pèse mes mots, on trouve les principaux travaux de Corbin, notamment des articles pour l'anthropologie philosophique et la théologie dialectique et l'histoire. Texte auquel il faut aussi ajouter 19 comptes rendus qui vont être publiés dans les recherches philosophiques présentées sous la direction de Coiré. Enfin, en 1937, lorsque Coiré part en mission au Caire, Il demande à Corbin de le supplier à l'EPHE, puis c'est à ce moment-là que Corbin va donner des cours sur Haman et Luther. Puis, il lui demande aussi de superviser et coordonner la publication des recherches philosophiques, du moins du volume de 37. Toutes ces collaborations ont été l'amitié et le respect mutuel que se vouaient les deux hommes. Voilà pourquoi Corbin, et je cite Corbin, fut le dernier de ses collègues des hautes études à lui serrer la main à la clinique la veille de son décès. Donc, on voit ici très bien que Corbin et Coley ont été vraiment intimement proches. On va voir dans la suite de l'histoire que cela est tout à fait important. On va essayer de déterminer maintenant d'où vient l'expression « imagination verrate » dans l'œuvre de Corbin. « Imagination verrate » qui veut dire « imagination vraie ». Donc, est-ce Coley ou Jung qui lui inspire cette expression? Donc, définir l'influence d'un intellectuel sur un autre, c'est bien sûr pas une tâche très facile. Surtout que dans le cas de Coiré, malgré les faits indéniables liés à Corbin par les cours, les publications et autres, Corbin ne cite jamais ou que très rarement directement. Puis, quand il le cite, il n'analyse pas les textes cités, il ne s'agit en réalité que de références en notes de votre page. Alors, déterminer qui de Coiré ou de Jung a mis Corbin sur la voie de l'imagination verrate de Paracelse est une tâche quand même assez difficile. Tous les lecteurs de Corbin reconnaîtront immédiatement l'expression, l'expression « imagination vera » qui est très fréquente dans la plupart de ses ouvrages. Car systématiquement, lorsque Corbin cherche à faire la distinction entre « imaginaire » et « imaginal », c'est-à-dire entre la fantasia qui produit de l'imaginaire chimérique et l'imaginaire réel des intermondes, tels que les ont vus ceux qui y sont réellement allés, Corbin se réfère presque systématiquement à l'imagination verrate, à l'imagination vraie, et il l'attribue aussi quasiment systématiquement à Paracelse. Donc voici un exemple où Corbin attribue l'imagination verrate à Paracelse. Donc Corbin dit, mais ici, une mise en garde initiale s'impose. Cette imagination ne doit surtout pas être confondue avec la fantaisie. Comme l'observait déjà Paracelse, à la différence de l'imagination vera, la fantaisie est un jeu de la pensée sans fondement dans la nature. Elle n'est que la pierre angulaire des fous. Coiré et Jung ont écrit de nombreuses pages sur l'œuvre de Paracelse. Il est donc naturel de se tourner vers leurs œuvres pour trouver l'origine de l'expression imagination vera que Corbin attribue à Paracelse. Mais il est loin d'être facile de déterminer de qui Corbin tire cette expression. Comme nous venons de le dire, Corbin parle systématiquement de l'imagination à l'imagination chimérique. Nous avons donc cherché cette distinction entre les deux formes d'imagination chez Jung et chez Coiré pour nous apercevoir que cette distinction entre ces deux formes d'imagination apparaît dans leur œuvre quasiment en même temps. Donc, il est d'autant plus important de retrouver cette trace, la trace de cette distinction entre imagination et fantaisie, que celle-ci permet à Corbin de distinguer imaginaire, imaginal, qui est quand même une idée forte de son œuvre. Coiré écrit dans son article de 1933 sur Paracelse, je cite, qu'il ne faut pas confondre l'imagination et la fantaisie. Cette dernière n'a aucune puissance, ces images flottent dans notre esprit, sans lien profond ni entre eux, ni entre eux et nous-mêmes. La fantaisie est sans fondement dans la nature. De son côté, Carl Gustav Jung soulève exactement la même distinction entre imagination vraie et fantaisie, mais dans son cas en citant le Liber Rosarium Philosophorum, dans une conférence, donc dans sa conférence sur les symboles onériques du processus d'individuation, qui sera prononcée au Cercle Eranos en 1935. C'est d'ailleurs une des deux conférences qui forment le volume sur psychologie et alchimie. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'imagination verra va apparaître dans l'œuvre de Corbin dans sa propre conférence, dans sa propre première conférence au Cercle Eranos en 1949. Donc, on voit que quand Corbin introduit pour la première fois la notion d'imagination, il le fait au Cercle Eranos. Et donc, ici, on voit qu'il y a un lien assez important avec Jung, et avec la pensée du Cercle Eranos. Donc, Corbin, dans sa conférence de 1949 au Cercle Eranos, écrit, je cite, « Si l'on s'interroge sur l'organe essentiel de l'opération alchimique, celui par lequel se révèle à soi-même son phénomène, nous savons que cet organe était désigné par les alchimistes latins comme « imagination », nullement au sens vulgaire du mot « imagination » en français, donc au sens de fictif ou irréel, mais précisément « imagination vera et non fantastica ». Donc, pourtant, le passage de Liber Rosarium Philosophorum, auquel réfère Corbin à travers le texte de Hume, est légèrement différent. Donc, quand Corbin cite « imagination vera et non fantastica », dans les faits, ce qu'on peut lire dans le passage de Liber Rosarium Philosophorum, c'est la phrase suivante. « Et hoc imaginare per veram imaginationem et non fantastica ». D'après nos recherches, Jung n'utilise jamais l'expression latine « ima », mais vraiment textuellement. S'il fait toutefois référence à l'imagination vraie, donc il utilise l'expression « imagination vraie », mais jamais sous une forme latinisée, il discute surtout de l'imagination active. En isolant cette expression tirée du Liber Rosarium Philosophorum, Corbin apparaît donc à la fois comme un lecteur très attentif de Jung, mais aussi comme celui qui met en circulation cette expression, et bien avant, en des penseurs comme Marie-Louise von Franz ou encore Barbara Hanna. Le problème d'attribution est alors le suivant. Paracels, de l'expression du rosaire des philosophes. Et il l'attribue à Paracels, même si celle-ci ne se trouve pas textuellement dans l'œuvre du médecin alchimiste suisse. Alors, est-ce à travers l'œuvre de Coiré que cette distinction est intégrée, ou bien est-ce par Coiré que celle-ci prend racine? Une chose est certaine, Corbin ne cite jamais directement les textes de Paracels. Il passe systématiquement par Coiré, par Coiré, et ici, à la première occurrence de l'expression « imagination vera » en 1949, il indique le texte de Jung, l'Eranos Diabo de 36, donc le texte sur les symboles onériques du processus de l'individuation. Dès que le vocabulaire de Corbin autour de l'imagination va se stabiliser, en réalité, il va changer ses références et il ne donne plus Jung en référence, mais Coiré en référence. C'est le cas du prologue de sa conférence de 1956, qui deviendra la deuxième partie de son célèbre livre sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Corbin semble se distancier de l'œuvre de Jung, et on peut se poser la question si en réalité c'est ça qui arrive. Ben, il semble que non et oui, puis on va revenir sur la question un petit peu plus loin. Non, parce que Corbin continue à citer Jung, mais il ne fait plus référence à Jung pour la notion d'imagination vera. Et il prend le temps, dans cette période-là, dans les années 50, d'écrire deux longs articles sur Jung, des articles qui devaient sortir dans un recueil en collaboration d'ailleurs avec Mircea Eliade. Ça surprend quand même, parce que justement, quand on regarde les textes cités par Corbin de Jung, c'est la disparition après 56 des références à l'alchimie liées à l'imagination vera. Donc, il arrête de citer Jung. C'est un peu mystérieux, mais je vais donner une explication un petit peu plus tard de pourquoi. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la notion de mundus imaginalis, et toujours dans le contexte d'influence et d'où ça vient et comment ça se passe. Donc, jusqu'à la publication en 1964 de son célèbre article Mundus imaginalis ou l'imaginaire et l'imaginable, vous comprendrez ici la référence de mon propre site de ma communication à cette conférence. Ce texte de Corbin de 1964. Donc, jusqu'à 1964, il y a vraiment de nombreux flottements dans son vocabulaire associés à l'imagination. On s'en relève exhaustivement toutes les étiquettes associées au mot imagination, parce qu'elles sont vraiment trop nombreuses. On peut quand même trouver des imaginations créatrices, actives, vraies, autonomes, séparées, théotaniques, immanentes, absolues, divines. Donc, dans l'œuvre de Jung, on trouve déjà, comme je vous dis, les imaginations créatrices et actives. Puis, il apparaît assez évident que cela a influencé Corbin. Il ne faut cependant pas confondre l'utilisation corbinienne et jungienne. Car Corbin utilise le terme dans un contexte hautement métaphysique et religieux. Pour Jung, l'imagination permet de créer des images mentales supportant un dialogue intérieur et créateur par lequel les choses passent d'un état potentiel inconscient à un état manifeste. Donc, Jung reste fondamentalement un psychologue, même s'il faut le dire, sa propre dimension spirituelle n'est jamais bien loin, tandis que Corbin, à travers les mystiques et les philosophes iraniens qu'il explore, conçoit cette même idée dans un contexte où l'existence de Dieu ne fait vraiment aucun doute et où elle n'est pas mise en sourdine sous prétexte d'une quelconque scientificité. Dès lors, chez Corbin, l'imagination n'est plus seulement cette capacité à rendre manifeste des contenus inconscients ou intérieurs, mais la capacité à rendre manifeste l'existence même de Dieu, ou de l'inconceptualisable, peut-être Jérôme Gutenberg. L'imagination est littéralement théophanique, puis l'espace dans lequel la divinité va se manifester correspond au mundus imaginalis, au monde imaginaire. Bon, par contraste, on comprend alors que chez Jung, l'imagination est une sorte de pratique de soi. On peut parler des pratiques ou techniques de l'imagination active visant à rendre manifeste des contenus de l'inconscient. Une technique qui, lorsque Jung l'applique à lui-même, à sa propre vie intérieure, lui permet de réaliser un ouvrage absolument extraordinairement beau comme le Livre rouge, où il dessine par une technique d'imagination active ses propres contenus intérieurs. Jung écrit dans Type psychologique, et je cite, « C'est pourquoi elle, la fantaisie créatrice, me semble être l'expression la plus claire de l'activité psychique spécifique. Elle est surtout l'activité créatrice d'où proviennent les réponses à tous les problèmes que nous pouvons résoudre. La mère de toutes les possibilités dans laquelle monde intérieur et monde extérieur forment une unité vivante, comme tous les contrastes psychologiques. La fantaisie fut et est toujours ce qui jette les ponts entre les exigences inconciliables du sujet et de l'objet, de l'extraversion et de l'introversion. C'est uniquement dans la fantaisie créatrice que les deux mécanismes se trouvent réunis. » Donc, c'était Jung qui parlait dans Type psychologique. La structure de l'imagination proposée par Corbin est très similaire à celle que Jung propose dans sa psychologie. Donc, il y aurait aussi vraiment à demander sérieusement si, par exemple, les types introvertis et extrovertis que Jung présente et met en lumière ne seraient pas à l'origine de la typologie ésotérique que Corbin utilise pour caractériser sa propre hermeneutique de l'expérience spirituelle. Si chez Jung, l'imagination est conçue comme un pont entre le sujet et l'objet, où la réalité de la vie intérieure est mise en conjonction avec la réalité extérieure, afin que la psyché puisse faire sens du monde dans lequel elle est immergée, voilà que chez Corbin, cette structure devient métaphysique. Corbin écrit dans sa charte de l'imaginable, et je cite, « L'imagination créatrice est essentiellement puissance médiane et médiatrice. De même que l'univers auquel elle est ordonnée et auquel elle donne accès est un univers médian et médiateur, un intermonde entre le sensible et l'intelligible, intermonde sans lequel l'articulation entre le sensible et l'intelligible est définitivement bloquée. » Donc cet univers médian et médiateur, c'est le monde de Magnus. Un monde qui, sans tenir une position métaphysique aussi forte que celle de Corbin, s'appelle chez Jung le mundus archetypus et est un monde qui s'explore justement par l'imagination. Alors, l'imagination créatrice, pour éviter de la confondre avec la fantaisie, Corbin préfère la désigner simplement par le terme imaginal, et c'est aussi pour se distancier de l'œuvre de Jung. Ce qui par la suite inspirera des auteurs comme James Hillman, qui, justement, parle plus souvent de psychologie imaginale plutôt que de psychologie archétypale. À partir de 1964, avec la publication de son texte qui est peut-être le plus célèbre dans les cahiers internationaux du symbolisme, intitulé « Modus imaginalis » ou « L'imaginaire et l'imaginable », Corbin devient lui-même une influence pour la jeune génération des chercheurs s'intéressant à la question de l'imagination. Imaginal remplace archétypal dans la psychologie de Hillman, comme nous venons de le dire, puis chez Gilbert Durand, lui va l'adopter pour parler du lieu des épiphanies anthropologiques. Si l'imagination créatrice se muta en imaginal, l'expression mundus imaginalis a elle aussi évolué au fil des ans. Et même si, sous sa forme latine, elle s'impose comme ayant existé de tout temps, cette expression est bien une création de Henri Corbin. Donc, avant d'être simplement mundus imaginalis, ce monde, celui-ci a été mundus archetypus. Et ça, c'est des expressions qu'on trouve dans l'œuvre de Corbin. Donc, mundus archetypus, mundus imaginalis archetypus, terre de l'imagination, monde de l'imagination, monde des idées-images et monde archétype. Donc, dans son appellation complète, mundus imaginalis archetypus, expression qu'on trouve textuellement dans l'œuvre de Corbin, donc celle-ci emprunte clairement l'une des idées centrales de l'œuvre de Jung, l'idée d'archétype. Mais encore une fois, Corbin ne discute pas le terme archétype ni ne l'analyse à la lumière des écrits de Jung. Et parce qu'il l'aborde ultimement dans l'expression mundus imaginalis, le lecteur ne pense pas immédiatement revenir à l'œuvre de Jung. Et Corbin s'explique lui-même à propos de la distance qu'il instaure entre lui et Jung. Donc il écrit, et je cite, « Il me fallait bien constater ceci, c'est Corbin qui parle. Tout ce que le psychologue, C.G. Jung, énonce sur l'imago, prend pour le métaphysicien un sens métaphysique. Tout ce que celui-ci énonce est interprété par le psychologue en termes de psychologie. D'où tous les malentendus possibles. C'est pourquoi je disais, si déçu, qu'après s'être informé l'un de l'autre, il faut accepter la séparation inévitable au moment où il le faut. » Donc la posture de métaphysicien engagé de Corbin explique pourquoi, assez tôt, il ne donne plus vraiment de référence à Jung. Et il va même jusqu'à écrire dans plusieurs textes postérieurs à l'article de 1964 que c'est en travaillant tout bonnement comme ça dans son dictionnaire latin qu'il a forgé l'expression « mundus imaginalis ». Des mentions qui occultent encore un peu plus l'influence de Jung sur la conception corbinienne de l'imagination. Tout ça pour dire que les apports de Coiré et Jung sont essentiels si on veut analyser la conception de l'imagination chez Corbin. Mais il ne faut jamais oublier la posture métaphysique à partir de laquelle ils parlent. Malheureusement, pour eux, dans l'article, pour eux, Coiré et Jung, dans l'article Mundus imaginalis ou l'imaginaire et l'imaginal, ni l'un ni l'autre n'y sont cités. Ce qui complique encore une fois la tâche du commentateur et amplifie l'idée que l'œuvre de Corbin est une sorte de continent isolé de la philosophie. Au final, il faudrait faire une analyse détaillée de la réception du mysticisme spéculatif allemand tel que Coiré y a introduit Corbin, puis une analyse devrait être doublée d'une réflexion vraiment sur les différences d'utilisation et de compréhension de la notion d'imagination active présente chez Jung et Corbin. Dans cette double tâche, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, il y a vraiment aussi à se demander et à regarder particulièrement l'influence de l'œuvre de Corbin sur d'autres penseurs comme James Hillman qui utilise abondamment le terme imaginable. Maintenant, on va passer un peu plus profondément à la question vraiment de la métaphysique de l'imagination chez Corbin. Donc, le rôle de l'imagination est vraiment central dans la métaphysique corbinienne. Mais parce que la notion se trouve dans le titre d'un de ses livres, L'imagination créatrice dans le fils de Minervi, il est alors assez trouvé, citer des passages pour appuyer vraiment toutes sortes d'analyses autour de cette notion. Cela explique en partie pourquoi Corbin est cité autant en poésie, en philosophie, en psychologie, en éducation, que dans le développement personnel et dans l'ésotérisme vraiment le plus farfelu. Sidney Corbin est fait chier, hein, parce que ça fait sérieux et érudit. Surtout que Corbin, il n'est pas généralement au programme de nos universités, donc rares sont quand même ceux qui l'ont vu. Henri Corbin est ainsi présent en note de votre page, attaché à une multitude d'idées et de courants, mais ceux qui ont décidé de remonter les différents affluents qui irriguent sa pensée, d'essayer de reconstruire et de comprendre qui est Corbin et de l'attacher à la philosophie telle qu'elle est présentée au 20e siècle, se comptent vraiment sur le doigt d'une seule main. Déjà, on a vu que la cristallisation des idées de Corbin autour de la notion d'imagination ne se fait pas ex nihilo. Hein, l'œuvre de Corbin, ce n'est pas un continent isolé et il faut vraiment travailler à le rattacher à la philosophie. Par une lecture attentive de ses textes et conférences, trois moments marquent l'évolution de sa pensée. Pour voir apparaître cette évolution, il faut d'abord remettre dans l'ordre chronologique ses différents écrits, parce que ça pose vraiment un problème important. Cette réorganisation est vraiment essentielle, étant donné que la plupart des livres de Corbin ne sont pas des livres, donc ce qui est quand même assez contre-intuitif quand on tient ces livres entre les mains. Dans les faits, si on prend des livres comme Imagination, Cicatrice, Antiquité, Luminarabie, Corps spirituel et terre céleste, L'homme et son ange, Le paradoxe du monothéisme, Face de Dieu, Face de l'homme, puis encore plusieurs autres, tous ces livres sont en fait des recueils de conférences, et la plupart du temps des conférences qu'il a données au Cercle Pérennos. Donc, dans la vingtaine de publications disponibles sous son nom, deux seules sont de véritables livres écrits vraiment avec l'idée du livre. Et ces deux livres sont Avicenne et le récit visionnaire, daté de 1954, qui est un de ses premiers livres, voire son premier livre, puis En Islam iranien, qui est son opus magnum en quatre volumes, et qui représente pas mal son dernier ouvrage. Donc, le premier et le dernier ouvrage de Corbin sont des pères. Les autres titres qui viennent d'être mentionnés sont essentiellement la publication sous forme de conférences. Mieux vaut alors prendre l'ordre de publication de ces différentes conférences Pérennos. Cette réorganisation permet ainsi de situer trois moments importants quant au développement puis à l'évolution de sa pensée sur la notion d'imagination. Ces trois moments, c'est 1953, 1956 et 1964. Ça représente des textes dont j'ai déjà mentionné un peu des éléments. C'est en 1953, Terre, Céleste et Corps de résurrection. En 1956, Imagination créatrice et prière créatrice dans le Sufisme d'Ibn Arabi. Et en 1964, suite à la rencontre de Gilbert Durand, la publication de Mundus Imaginalis, ou l'imaginaire et l'imaginaire. C'est essentiel de revenir à ces dates originales de composition, parce que si on suit les dates de publication des livres, en réalité, on inverse les deux premiers moments de sa pensée, et on pense qu'il y a d'abord l'idée d'imagination créatrice, quand plutôt c'est l'idée de Terre céleste et de Mundus Imaginalis qui est d'abord présente. Succinctement, on pourrait dire que Corbin, ce qu'il cherche à faire dans sa pensée philosophique, c'est de résumer ça en une seule phrase, il cherche à réhabiliter l'unité métaphysique des religions du livre dans une sorte d'anthropologie hiéro-historique. Le plus grand danger lorsque quelqu'un cherche l'unité de quelque chose est bien évidemment de réduire cette chose à l'unité que l'on recherche. Tout à fait conscient de ce problème, Corbin, et contrairement à plusieurs pérennialistes, justement, Corbin ne cherche pas l'unité originelle qui lui permettrait de déduire les traits d'une religion universelle. À cet égard, il ne faut pas confondre, par exemple, l'œuvre de René Desnôtres avec celle de Corbin. Les différences sont vraiment fondamentales et beaucoup trop nombreuses pour penser mettre Desnôtres et Corbin côte à côte. Notons quelques points de divergence sans entrer trop profondément dans l'analyse. Guénon, d'abord, ce n'est pas seulement un intellectuel, il est d'abord le chef spirituel de sa propre tariqa, donc de sa propre congrégation soufie. Et à ce titre, de chef spirituel, il va s'opposer farouchement, mais vraiment farouchement, à l'Occident laïque. Pour lui, L'opposition entre Orient et Occident, je parle de Guénon, est vraiment irréductible et irréconciliable. De l'autre côté, Corbin, qui ne se convertira jamais à l'islam, et restera un protestant toute sa vie, et là où les rapprochements avec Guénon semblent assez faciles en apparence, en réalité, ne passent pas le test. Donc, par exemple, il ne suffit pas de relever ésotérisme, le mot ésotérisme, qui est présent dans leurs œuvres respectives pour les assimiler. Ce serait vraiment une terrible erreur. De plus, même si Corbin s'est lancé avec passion dans la franc-maçonnerie de 1970 à sa mort en 1978, il n'est pas possible non plus de rapprocher la maçonnerie guénonienne de celle que pratiqua Corbin, particulièrement parce que la loge de Corbin n'avait pas comme objectif de faire une apologie de ses propres travaux, ce que la loge de Guénon avait comme objectif. Donc, puis ici, Guénon rejette complètement l'Occident matérialiste au profit d'un Orient purement spirituel. Chez Corbin, la grille de lecture est quand même un peu moins simpliste. Il ne s'agit pas pour lui de présenter la spiritualité iranienne, il s'agit pour lui plutôt de présenter la spiritualité iranienne à l'instar de laquelle l'Occident va pouvoir retrouver dans ses propres racines la trace de ses propres traditions spirituelles. Donc, l'Orient, la philosophie est vraiment plus comme un vecteur permettant à l'Occident de retrouver ses propres racines spirituelles. Donc, cela n'empêche pas Corbin de parler, par exemple, de catastrophes métaphysiques en Occident, sous-entendant tout l'aspect matérialiste, tous les ismes possibles. La cause de cette catastrophe métaphysique pour Corbin, pour lui, c'est la disparition du monde des âmes célestes, donc du monde des correspondances et des images subsistantes dont l'organe de connaissance était en propre imagination active. Pour Corbin, il faut attribuer l'impossibilité perceptuelle de la réalité des symboles à cette catastrophe métaphysique qui réduit la perception de la réalité à la réalité empirique. J'arrive maintenant dans ma dernière section. Où je vais parler plus de l'herméneutique et de la phénoménologie de Corbin en relation avec l'imagination. Donc, la métaphysique de l'imagination chez Corbin est fondée à la fois sur la phénoménologie. Les connaissances philosophiques de ces deux courants n'échappent vraiment pas à Henri Corbin. Puis il faut prendre le temps de le rappeler parce que si on pense que c'est d'abord un orientaliste, on oublie souvent de rappeler qui il était justement de 1930 à 1939, et c'est très très important de mentionner pour qu'on puisse comprendre l'épaisseur qu'il donne quand il utilise les termes de phénoménologie et d'hermétique. Donc, Corbin connaissait mais vraiment extrêmement bien autant les œuvres de Kierkegaard, Heidegger, Lewitt, Brentano, Husserl, Jaspers, Van der Leuk, Bultmann, Barth, Dinthal, Schirmer, et plusieurs autres. Et donc, vraiment, toute cette philosophie allemande, toute cette tradition allemande qui va devenir herméneutique et phénoménologie, Corbin la maîtrise vraiment très bien. Il est d'ailleurs le premier traducteur de Heidegger en français, et aussi le premier traducteur en français de Barth, et aussi un traducteur de Jaspers, où il traduit quelques passages de sa philosophie. Alors, lorsque Corbin utilise des termes comme phénoménologie ou herméneutique, il faut quand même le prendre au sérieux. Précisons que John Corbin a un fort penchant théologique et que c'est dans cette perspective qu'il s'intéresse à l'herméneutique et à la phénoménologie. D'où la présence des gens comme Barth, Bultmann et Schleiermacher dans la liste des gens que j'ai précédemment cités. On pourrait même dire qu'il interroge la philosophie à partir de sa foi protestante. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre comment il va intégrer la pensée même de l'islam iranien. Donc, l'herméneutique protestante adoptée par Corbin correspond en fait, ou à peu près, à l'herméneutique luthérienne du philosophe et poète Johann Georg Hamann. Donc, surnommé aussi surnommé le mage du Nord. J'imagine que l'expression devait déjà attirer l'intérêt de Corbin. Cette herméneutique passe par la notion de chiffre-schrift, c'est-à-dire la notion de chiffrement. Exactement comme Kant parlait dans la critique du jugement, de l'écriture chiffrée. Hein? Il n'y a pas. Cette notion est vraiment le pivot central de l'herméneutique pour Corbin, moi dans cette période. Car pour lui, s'il n'y a rien à déchiffrer, il n'y a bien sûr pas d'herméneutique possible. Les symboles peuvent alors être compris comme des clés du chiffrement. La notion de chiffre possède d'ailleurs des similitudes conceptuelles à celles de Tawil. Hein, pour saisir en profondeur le sens donné par Corbin au Tawil, c'est-à-dire à l'herméneutique spirituelle, telle qu'il la conçoit et la découvre dans la philosophie iranienne, il est vraiment opportun de revenir à sa compréhension de l'herméneutique protestante. C'est d'ailleurs une analyse approfondie de cette notion qui permettrait de mieux comprendre la réception du protestantisme de Corbin. Donc, en travaillant sur la notion de Tawil, que Corbin traduit par herméneutique spirituelle, il serait vraiment très intéressant de voir comment c'est pas d'abord son protestantisme qui l'a mené à développer cette notion. En effet, bien souvent, lorsqu'il présente la notion de symbole, il introduit la notion de chiffre, et même très postérieurement dans son œuvre, donc pas juste dans les écrits des années 30. Il écrit par exemple, et je cite, « Le symbole annonce un autre plan de conscience que celui de l'évidence. Il est le chiffre d'un mystère. Le seul moyen de dire ce qui ne peut être dit ou appréhendé autrement. Le symbole doit alors être compris pour Corbin comme quelque chose qui n'est jamais expliqué une fois pour toutes, mais toujours à déchiffrer. C'est l'imprégnation de l'œuvre de Hamann qui semble à la source de la notion de chiffre telle que Corbin l'utilise. Surtout qu'en 1935, Corbin va écrire un très long essai, un peu plus d'une centaine de pages, sur le Mage du Nord, dans laquelle la notion de chiffre est déjà présente. Mais précisons que la mention la plus ancienne que j'ai trouvée, la notion de chiffre chez Corbin, provient de l'atelier où il dit des archives Corbin, et c'est par rapport à l'utilisation, c'est plutôt dans le plan relatif à sa thèse de doctorat, qu'il n'a jamais complété, qu'on trouve cette notion de chiffre. En fait, sa thèse devait se terminer justement avec la notion de chiffre. Et sa thèse, comme je l'ai dit au tout début, devait s'intituler « Notion d'anthropologie philosophique dans la philosophie allemande contemporaine ». Malheureusement, comme Corbin n'a pas poursuivi sa thèse au-delà du plan, quoi qu'on ait quelques notes brouillons éparses, il est quand même assez difficile de savoir exactement ce que comptait vraiment en faire Corbin. Le premier chapitre de sa thèse est associé à Karl Jaspersen. D'ailleurs, la dernière section du plan donne à penser que Jaspersen est la source philosophique à laquelle comptait s'abreuver Corbin. D'ailleurs, dans le troisième tome de son immense ouvrage sur Romain intitulé Philosophie, Jaspersen, justement, avait résolu le problème de la transcendance radicale par l'idée de chiffre. Son essai sur Hamann témoigne parfaitement de cela. Donc, dans l'essai sur Hamann, Corbin écrit, et je cite, « Les données de l'histoire universelle sont des chiffres, des signes, un commentaire de l'écriture. » C'est d'ailleurs cette propriété symbolisante de la parole divine qui empêche de tomber dans le panthéisme et qui sauvegarde la transcendance radicale de Dieu. On peut revenir, il y a tout un développement qu'on pourrait faire autour de la notion. Ça, je ne suis pas ennuyant, je vois les gens quitter. Sur l'aspect de sans tomber dans le panthéisme, puis comme sauvegarde de la transcendance, il faudrait faire un pont avec une des dernières conférences que Corbin a données sur la notion du paradoxe du monothéisme. Donc, si ça intéresse les gens. En résumé, pour Corbin, la phénoménologie a fait apparaître l'insuffisance des concepts liant l'entendement aux données empiriques. Une insuffisance qui doit être comblée par quoi? Bien sûr, par l'imagination. Pour lui, il s'agit là du principal problème des Occidentaux. Là où l'imagination aurait dû être valorisée, la place était restée vide. Prenons toutefois garde de voir l'imagination comme ce qui opère une simple médiation métaphorique. L'imagination chez Corbin soutient et donne accès à un niveau d'être autrement inaccessible. Et il le répète à Maître Pérouse, l'imagination, et je cite, « nous donne accès à une région et réalité de l'être sans laquelle elle nous reste fermée et indestructible. » Alors, à partir de l'herméneutique de Hamann, de la notion de chiffre et plus tard de la notion de symbole, Corbin crée le terme imaginal qui lui permet de considérer et valoriser la réalité effective de la présence divine. La phénoménologie corbinienne débouche alors sur une exploration de la conscience imaginative. Il ne s'agit pas seulement d'une exploration des contenus de la conscience standard, mais de l'exploration de cette nouvelle région de l'être, de ce nouveau monde, de ce mundus imaginalis. La phénoménologie corbinienne décrit un niveau plus fondamental et englobant de la conscience humaine, un niveau archétypique, dirait probablement les Jungiens. Pourquoi et pourquoi il ne faut jamais l'oublier, la perspective radicalement métaphysique de la vision du monde de Corbin fait en sorte que le mundus imaginalis est, et je pèse le mot, est autonome de la conscience humaine. Il ne s'agit pas d'une partie interne de la conscience, car pour lui, ce sera ma citation finale, il est beaucoup plus vrai de dire que c'est la réalité spirituelle qui nous contient et nous enveloppe que de dire que c'est nous qui la contenons. Merci.
Merci beaucoup pour cette conférence en tout cas. Bon, évidemment, on a un peu débordé le timing, mais on a tout le temps pour
J'entends à peine quelqu'un marmonner très plus fort. Je n'ai pas entendu du tout.
Vous entendez mieux?
Un petit peu mieux, mais je me rapproche. C'est que le micro, juste pour vous dire, c'est que le micro s'ajuste avec la force d'intensité de la salle et étant donné que les applaudissements étaient puissants, le micro s'ajuste pour pas. C'est pour ça que je vous entends un peu.
Donc il se réajuste un peu.
Oui, tranquillement.
D'accord. Donc je disais qu'on a un peu dépassé le timing ici, mais on a sans doute le temps pour l'une ou l'autre question. Je laisse la parole. Dites si vous entendez pas ce qu'on dit.
Voilà. Oui, mais là, j'entends déjà beaucoup mieux.
Ah, voilà. Michel Dupuis, je voudrais vous poser une question pour vous remercier. C'est vraiment passionnant ce que vous nous avez présenté là. Alors, c'est une question historiographique en réalité. Vous le savez très bien, Coiré, il fait partie de la première génération des élèves husserliens. Il va rencontrer là des gens qui sont extrêmement intéressés par des problématiques métaphysiques, par le réalisme transcendantal, par des notions qui vont mettre au cerf finalement en difficulté. Et derrière Coiré ou Coiré, il y en a un qui va faire sa thèse au CERECOSER et qui va enseigner à Strasbourg, c'est Jean Hering, qui va devenir, il n'est pas très connu, mais ça va être un acteur très important dans le développement d'une phénoménologie de la religion. Alors ma question, c'est vraiment une question historiographique. Est-ce que vous avez trouvé des traces d'influence de Hering, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, de Hering, sur Corbin?
D'abord, je vais dire que je ne connais pas Hering. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Ça me fera plaisir d'aller feuilleter ça plus tard. D'autre part, non, dans les références, notes de bas de page ou autres, je n'ai jamais croisé le nom de Hering, mais tous les travaux que Corbin fait sur phénoménologie herméneutique et penseurs allemands, la plupart de ces travaux-là, il y a énormément de matériel inédit dans les archives Corbin. Et vraiment, quand on regarde sa connaissance de la philosophie allemande contemporaine, donc quand il travaille dans les années 20-30, elle est mais vraiment d'un niveau absolument ahurissant, ou le vertige. Donc, il est très possible qu'on puisse trouver des traces de Hering. Il était vraiment en relation avec un nombre. C'est absolument ahurissant. Et ça, c'est un travail qui n'a pas été fait sur l'œuvre de Corbin, donc de traiter correctement sur toute la part de la pensée des années 30, d'une part sur l'œuvre postérieure de Corbin, quand il va travailler sur les mystiques et spirituels iraniens, mais d'autre part sur sa compréhension, sa lecture, qui était vraiment très très fine de l'herméneutique et de la phénoménologie à cette époque. D'ailleurs, la notion d'anthropologie, pour lui, c'est vraiment le seul moyen de se sortir de l'impasse qu'il voit entre une phénoménologie trop abstraite et une herméneutique qui n'a pas de sens, qui doit être ancrée justement dans une anthropologie, qui doit avoir un sens pour l'être humain. Puis, et pour revenir à Blumenberg, moi, chaque fois que j'entends, et c'était le même sentiment que j'avais tantôt, de Blumenberg, et que maintenant, on commence à relever toute l'importance de cet auteur-là à travers la notion d'anthropologie. Mais moi, je trouve la même intuition, disons, c'est un peu fort le mot même, donc une intuition semblable, déjà présente en 1930 dans des écrits de Corbin. Mais des écrits qui sont malheureusement à pas analysés ni rassemblés ensemble. Il y a tout un travail à faire de ce côté-là qui pourrait être absolument intéressant. Mais Éric, je vais quand même prendre le temps d'aller vérifier dans les archives puis dans les notes que je possède si je n'avais pas déjà croisé ce point.
Merci, tenez-nous au courant.
Ouais, notre réaction. Bah, sinon, on peut clôturer la journée. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous pour avoir participé à cette journée.
Merci.
Bon, là, ça a l'air plus vide maintenant, mais au moins, on a eu du monde tout à l'heure.
Merci à vous.
Voilà.
Merci Daniel.
Bonne journée, Daniel.
Bonne ouais. journée. Ouais.
Bonne fin de journée à vous.
Merci. Merci.
Et je vous enverrai les enregistrements.
Et voilà.
Ça va beaucoup.
Ça va pas trop mal marché. C'est toujours un peu aléatoire quand même, Skype.
Je suis bien désolé de ne pas pouvoir être avec les autres demain, mais je vais pouvoir vous dire et puis jusque même le soir, parce que je suis toujours sur la neutralité.